Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Merci de commencer votre journée avec nous, votre petit matin qui démarre, comme chaque jour de la semaine, de bonne heure et de bonne humeur.
Ce sont les conditions sine qua non pour un réveil réussi. On est très heureux de vous accompagner jusqu'à 6h30. Dans l'actualité, ce jeudi 12 mai, Julien.
Bas les masques dans les transports en commun. À partir de lundi, nous serons autorisés à nouveau à sourire à nos voisins de métro ou de bus. Annonce du gouvernement qui ressemble à un petit cadeau de départ, puisqu'il se murmure avec insistance qu'Emmanuel Macron devrait nommer son futur Premier ministre d'ici la fin de la semaine.
Votre invité à 6h10.
Un homme qui a perdu le même jour sa mère, sa sœur et son frère et qui depuis se bat pour que justice leur soit rendue. Son nom, Ibrahim Moni, c'est le porte-parole de l'association des familles des victimes de la Yemenia Airways, compagnie aérienne dont le procès pour homicide et blessures involontaires a débuté à Paris en début de semaine.
13 ans après le crash du vol 626 au large des Comores, drame qui a coûté la vie à 152 personnes.
Une seule survivante, une adolescente retrouvée accrochée à un débris flottant à l'appareil, elle va témoigner à ce procès, à l'inverse des dirigeants de la Yémenia qui pratiquent la politique de la chaise vide. Aucun ne s'est déplacé à Paris. Que s'est-il exactement passé ce 30 juin 2009 ? Qu'attendent les familles de victimes ? Rendez-vous à 6h10.
Et puis on vous propose ce matin de vous imaginer dans une rue du Paris du 19e siècle. Vous voyez des lampadaires, des chapeaux sur les têtes des passants. Vous entendez les sabots des chevaux, les roues des calèches sur les pavés. Vous touchez aussi les murs en pierre des maisons. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça sent? Quelles sont les odeurs que vous croisez sur votre passage?
Raconter l'histoire de l'Europe de manière olfactive, c'est le projet de recherche Odeuropa, lancé il y a un peu plus d'un an maintenant. Son objectif est de recenser, décrire, analyser, voire reconstituer les odeurs qui nous ont accompagnés ces 4 derniers siècles.
Voilà, créer une encyclopédie olfactive, en somme. Ce projet réunit une trentaine de chercheurs et nous serons avec l'une d'entre eux à 5h45, la doctorante chercheuse Victoria Anne Michel.
Et votre partition, hein,
un exil en or pour les Rolling Stones au début des années 70. La partition de l'album Exile on Main Street, enregistrée sur la Côte d'Azur, sortie il y a exactement 50 ans. Rendez-vous à 6h20.
On commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Alors, je reprends la petite feuille. On va un peu mieux respirer aujourd'hui.
Oui, on va un peu mieux respirer. Vous l'avez peut-être senti ce matin, si vous êtes déjà sorti. Il fait un peu plus frais, légèrement plus frais. La chaleur qui a touché toute la moitié nord hier est en train de s'installer sur le centre et le sud du pays aujourd'hui. Donc, ce matin, attention aux orages qui éclatent déjà sur le Massif central et le Jura. On a des brouillards également sur les routes du centre-Val de Loire, du Poitou, de la Champagne. Sur toute la moitié nord, on va avoir un temps qui va rester sec toute la journée avec un voile nuageux. Ça sera beaucoup moins dégagé qu'hier. Et puis au sud de la Loire, donc je vous le disais, des orages qui éclatent dès ce matin sur le Massif central et le Jura, ça va durer toute la journée. Et puis de la Gironde à l'Alsace, en passant par l'Auvergne, on a des averses toute la journée. Au bord de la Méditerranée, le soleil résiste. Les températures, 6 à Vannes ce matin, 9 pour Amiens, 12 à Paris et Marseille, 15 à Nice et Colmar, 18 à Strasbourg. Ce matin, c'est assez stationnaire. Cet après-midi, ça baisse. 16 à Cherbourg, 18 à Brest, 20 à Lille, 23 à Paris. Hier, on avait presque 30 degrés. Hein. 25 à Clermont-Ferrand et 28, la maximale pour Lyon.
On ressort sa petite veste, donc.
Oui,
merci.
Alors, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ah. On a un gros coup de chaleur qui arrive encore pour la semaine prochaine.
Bon, bah on verra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Une question à la une aujourd'hui. Et si l'inflation atteignait un record historique, 10% d'ici la fin de l'année, à l'Elysée, on craint le pire. Le futur Premier ministre, dont la nomination devrait intervenir en début de semaine prochaine, va avoir du pain sur la planche. Ce qui fait grimper les prix, c'est aussi la pénurie de matières premières. Exemple, dans le bâtiment, le bois ou l'aluminium manque, les chantiers prennent du retard. Et puis la colère de Christophe Galtier à la suite de chants scandaleux des supporters niçois lors d'un match face à Saint-Etienne hier soir. Ils s'en sont pris à Emiliano Sala, décédé lors d'un crash d'avion il y a 3 ans. La réponse de l'entraîneur de l'OGC Nice à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche.
Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté par Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour à tous. C'est le secret le mieux gardé de France. Qui sera à Matignon la semaine prochaine? Hier avait lieu le dernier conseil des ministres du gouvernement Jean Castex. Emmanuel Macron a profité pour le remercier une dernière fois. Reste à savoir maintenant quel nom va sortir du chapeau pour le remplacer. Selon les informations d'Europe 1, les favorites sont Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et Elisabeth Borne, l'actuelle ministre du Travail.
Un nouveau gouvernement qui devrait être annoncé en début de semaine prochaine avec déjà du pain sur la planche. Principal thème, le pouvoir d'achat.
Plus 10% sur le prix du café, plus 15% pour les pâtes, plus 10% pour la viande surgelée. Les prix n'en finissent plus d'augmenter. L'exécutif cherche des solutions pour compenser cette inflation qui pourrait battre un record vieux de 30 ans cette année. Arthur Delaborde.
10%, c'est selon nos informations le niveau record d'inflation anticipé par plusieurs personnes à l'Élysée pour la fin de l'année. Et pour faire face, Emmanuel Macron a notamment promis de dégeler avant l'été le point d'indice des fonctionnaires, un potentiel gouffre financier. D'autant que d'autres mesures sur le pouvoir d'achat vont peser lourdement sur le budget. La prolongation du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie et de la remise de 18 centimes par litre de carburant, le fameux chèque alimentaire, le triplement de la prime Macron ou encore la réindexation des pensions de retraite et des prestations sociales sur l'inflation au 1er juillet. Il va maintenant falloir intégrer tout cela dans le projet de loi de finances rectificative qui sera voté après les législatives et ce malgré une croissance très incertaine. Derrière les difficultés de gestion, il y a aussi un problème politique. Tout recul sur le sujet brûlant du pouvoir d'achat pourrait entraîner une vive contestation comme ce fut le cas avec les gilets jaunes.
Les précisions d'Arthur Delaborde pour Europe 1. Selon la Banque de France, le retour à la normale de l'inflation ne pourrait intervenir qu'en 2024.
On s'intéresse à présent à un autre secteur qui souffre, c'est celui du bâtiment où les délais n'en finissent plus de s'allonger.
La guerre en Ukraine, la Chine au ralenti à cause du Covid, cela provoque de lourds problèmes d'approvisionnement de bois, d'aluminium ou d'autres matières premières. Illustration dans une menuiserie de Tilloy-les-Moflaines dans le Nord avec Maximilien Carlier.
Dans l'atelier, le son des ponceuses, des scies, des commandes de placards, de dressing, de portes sur mesure, il y en a, mais pour certains produits, des difficultés pour s'approvisionner. Bruno Voiseux, gérant de l'artésienne de menuiserie.
Ce genre de fenêtre, qui est en aluminium, c'est compliqué à avoir actuellement. Là, je veux dire, les délais sont en train de s'envoler actuellement. On est entre 6 et 7 mois pour avoir de la menuiserie aluminium. Avant, je vais dire maxi 1 à 2 mois auparavant. On a multiplié par 3 le délai quasiment.
Conséquence, retard auprès des clients. Sur le bureau de ce patron, une pile de devis en attente. La solution, un peu système D, le dépannage entre artisans.
S'il y a besoin d'un coup de main en termes d'appro, matériaux, je vais dire, c'est-à-dire du panneau ou du massif, avec des collègues, on essaye de s'entraider de cette façon parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour avancer les choses. On est absolument tous dans la même galère.
Et on manque clairement de visibilité sur notre stock, selon ce gérant. On s'adapte. Et le carnet de commandes se remplit, affirme-t-il, un peu en fonction de ce qu'on a. Tilloy-les-Moflaines, Maximilien Carlier, Europe 1.
C'est le sujet brûlant à Grenoble. Le maire de la ville, l'écologiste Éric Piolle, veut autoriser le port du burkini dans les piscines de la ville. Mais il fait face à une fronde de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous refusons de tolérer l'intolérance, le slogan d'une tribune de conseillers départementaux de l'Isère. 42 sur les 60 au total ont signé. Un véritable levée de bouclier contre la prochaine délibération pour modifier le règlement des piscines. Christian Coignet, maire de Sassenage, ville de la banlieue grenobloise, est l'un de ses réfractaires.
Éric Piolle est maître chez lui, dans sa commune, à lui de choisir. Sauf que, à partir du moment où il accepte ça, ça risque de se répandre dans l'ensemble des communes. J'en sais bien que derrière, on aura des demandes de nos habitants pour la même chose, pour la même acceptation, ce qu'on ne veut pas. Moi, j'ai une piscine sur Sassenage, sur ma commune. C'est un lieu laïque, comme tous les lieux publics, et je ne peux pas tolérer des marques de religion.
Propos recueillis par Zoé Pallier. Si la modification du règlement est votée par le conseil municipal ce lundi, elle entrera en vigueur dès le 1er juin.
Europe 1 vous le révélait hier, une affaire de ripoux qui a déjà fait tomber un haut dirigeant.
Un véritable coup de tonnerre au sein de la police. L'inspecteur général Frédéric Dupuche a été suspendu. Cela fait suite à de forts soupçons de fraude au concours de commissaires. Une candidate impliquée a aussi été écartée. Une affaire qui fait beaucoup de bruit en interne, William Molinier.
Oui, avant tout dans le microcosme des commissaires de police, d'abord parce que cette affaire entache un concours considéré comme l'un des plus difficiles de la fonction publique auquel la hiérarchie est très attachée. Aussi parce que Frédéric Dupuche, ancien patron de la police scientifique, aujourd'hui inspecteur général, ne s'est pas fait que des amis dans la maison police en pleine crise des Gilets jaunes. Il avait été débarqué d'un poste stratégique de la préfecture de police. Personne n'a vraiment compris, nous souffle un commissaire, comment il s'est retrouvé quelques mois plus tard, catapulté au cabinet du directeur général de la police nationale avec une mission là encore ambitieuse puisqu'il devait mener la réforme de la police, refonte controversée, vilipendée par la filière judiciaire, si bien que certains policiers voient aujourd'hui dans cette affaire de tricherie une forme de règlement de compte en interne. Gérald Darmanin souhaitait que cette réforme soit mise en œuvre dès le début de l'année prochaine, mais avec la suspension donc de son principal instigateur, elle pourrait prendre du retard.
William Molinier qui a révélé l'affaire avec Europe 1.
C'est une scène affligeante à laquelle on a assisté hier soir, le football une nouvelle fois entaché.
C'est un Argentin qui ne nage pas bien. Emiliano Sulo, les propos des supporters niçois. Un chant qui fait écho à la mort de l'ancien joueur de Nantes, Emiliano Sala, décédé lors d'un crash d'avion dans la Manche il y a 3 ans. Une réponse honteuse à la défaite en Coupe de France face au club nantais ce week-end. Des propos qui ont fait sortir de ses gonds l'entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier.
J'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, c'était pas des chants, c'était pas des cris de joie, c'était pas un soulagement, c'est ce que les joueurs ont entendu. Je sais que le club est intervenu à travers un communiqué et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, de mes joueurs, on tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Sala, les excuses aussi au FC Nantes. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. J'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux. On peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
Nice qui a remporté son match en retard de la 36e journée de Ligue 1 face à Saint-Etienne 3-2. Dans l'autre rencontre, Nantes a gagné face à Rennes 2-1.
Et des résultats qui permettent à Bordeaux d'espérer encore
en sursis, les Bordelais. Oui.
Merci beaucoup pour ce journal, Johan Tritz.
Il est 5h08, vous écoutez Europe 1 et c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et mon pari gagnant sera le 102 Mutabahi. Dans cette course de catégorie groupe 3 d'un très bon niveau, il devra certes avoir effectué des progrès pour prétendre l'emporter, mais je sais que ce pur sang âgé de 4 ans n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment. Dès lors, au vu de sa régularité affichée depuis le début de sa carrière, il me paraît donc capable de franchir un nouveau palier. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, réunion 1 dans la première course, le numéro 2, Mutabahi.
Le numéro 2, merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez avec vos pronostics du Quintet dans une demi-heure. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour, bon réveil, le pressing maintenant. Et les trois histoires de la rue de presse sont rejointes par Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
À la une de vos journaux ce matin, Le Monde en état d'alerte, inflation, taux croissance, c'est le titre du Figaro, alors que les banques centrales relèvent une à une les taux d'intérêt pour essayer de contrer la flambée des prix, au risque de casser l'activité économique. Ce qui n'a pas été cassé en revanche, c'est le nouveau barème prud'homal en cas de licenciement abusif, la réforme Macron validé par la Cour de cassation, peut-on lire en une des Échos. C'est une victoire pour le chef de l'État et le patronat. Et puis des Champs-Élysées nouveaux avant les JO, voilà ce que nous annonce ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Paris va lancer 30 millions d'euros de travaux pour redonner son cachet à la plus belle avenue du monde. Voilà pour les unes les plus marquantes du jour. Omblin, quel article avez-vous sélectionné?
J'ai sélectionné l'histoire du jour de Libération et cet article passionnant sur les changements de couleur des caméléons. Vous m'avez vu plonger dans cet article ce matin, messieurs. Cela a commencé par une interrogation de la part d'une communauté de chercheurs. Mais pourquoi diable la même espèce de reptile, l'une en Afrique, l'autre à Hawaï, n'arbore pas tout à fait la même robe verte? Il s'agit ici du caméléon de Jackson. C'est une espèce de caméléon long de 30 cm, doté de 3 cornes entre ses yeux globuleux au mouvement indépendant. Oui, ça c'est pour tous les caméléons. Le caméléon de Jackson est originaire des forêts du Kenya et de Tanzanie. Et en 1972, il a été introduit à Hawaï. Alors autant vous dire que l'île d'Oahu est devenue le paradis des caméléons africains. C'est bien connu, la petite bête à écailles et au sang froid, change de couleur en fonction de son environnement. Menacé par un prédateur, il se fond dans le décor, devient couleur feuille, hein, tout vert, ou couleur branche, tout marron, pour passer inaperçu. C'est finalement pas tout à fait vrai concernant le caméléon vacancier du Pacifique sur l'île d'Oahu. Il crâne et parade dans des teintes plus flashy. Les scientifiques ont voulu connaître la cause de ce manque de discrétion et ils se sont donc livrés à quelques expériences, ma foi, savoureuses. Que se passe-t-il quand on place deux mâles face à face? Le caméléon devient vert pomme, tirant sur le jaune vif. La couleur du plus faible des deux va se mettre à pâlir. Un mâle face à une femelle maintenant, et bien madame devient vert foncé quand elle veut se débarrasser du prétendant un petit peu trop insistant. Dernière mise en situation, un caméléon confronté à un prédateur, un faux serpent en plastique hein, par exemple, pouf, tenue de camouflage de rigueur. Sauf que dans les trois cas, les chercheurs remarquent une différence notable. À chaque fois, le caméléon hawaïen se fait nettement moins discret, et notamment quand on lui a agité un serpent factice sous le nez. À chaque fois, ses couleurs restent plus vives que celles du caméléon africain. Résultat sans appel, après 50 ans passés à se dorer la pilule sous les cocotiers, sans être importuné par un serpent, un vrai, hein, ou un oiseau qui passe, le caméléon de Jackson s'est adapté à Hawaï. En l'absence de prédateurs, la discrétion n'est plus la priorité. L'article de Libération se termine ainsi. Le reptile se concentre désormais sur les activités les plus importantes de sa vie, la bagarre et la drague.
Ah ben voilà. Tout est vrai.
Le caméléon d'Hawaï vit de jours heureux.
Donc le caméléon africain qui va vivre à Hawaï est plus flashy
alors, oui,
que jamais.
Au bout de 50 ans, il s'est adapté, effectivement. Mais comme il n'y a pas de prédateur, il n'a plus besoin de pâlir ses couleurs.
Il devient bling-bling, quoi.
Voilà, exactement. Disco. Vous avez tout compris.
Merci, Omblin. Martin, c'est à vous.
Oui, Omblin, Julien, vous avez joué aux jeux vidéo.
Oh oui, on joue encore, vous pouvez le mettre au présent.
Écoutez bien, ça va vous rappeler vos après-midi d'adolescent.
EA Sports, it's in the game.
Alors, quel jeu?
FIFA.
FIFA, évidemment, oui. Hein, une des plus vieilles franchises du gaming, une des plus populaires aussi, avec ses bandes originales finement choisies, ça c'est pour vous, Omblin. Eh bien, c'en est terminé de FIFA. La Fédération Internationale de Foot et le géant du jeu vidéo Electronic Arts ont annoncé cette semaine la fin de leur partenariat. Un partenariat vieux de 30 ans. Le premier opus de FIFA est sorti en 1993. Il a porté plusieurs noms, hein. FIFA Soccer, En route pour la Coupe du Monde, et enfin FIFA. Mais toujours avec le même succès, hein, selon le Guardian, la série s'est écoulée, tous titres confondus, à plus de 325 millions d'exemplaires. Hein, très loin devant tous ses concurrents. C'est l'un des partenariats les plus fructueux du monde du sport, souligne le New York Times. Un jeu vidéo qui réunirait aujourd'hui, hein, 150 millions de joueurs à travers le monde.
Alors moi, ce que je comprends pas bien, c'est pourquoi arrêter cette success story?
Eh bien évidemment, pour une histoire de gros sous, les deux parties, hein, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le prix des licences. Grosso modo, c'est le droit pour EA Sports, hein, d'utiliser les noms des clubs, joueurs et sélections dans son jeu. La FIFA réclamait le doublement de sa rétribution, hein, qui s'élevait quand même déjà à 150 millions de dollars par an. Par ailleurs, la Fédération Internationale de Foot, hein, aimerait apposer sa marque à d'autres produits et notamment à des NFT. Vous savez, hein, ces œuvres numériques garanties par un certificat de propriété. Des conditions, hein, jugées inacceptables par EA. La firme va désormais miser sur ses partenariats noués avec des dizaines de clubs pour garder des noms officiels et lancer une nouvelle franchise, un EA Sport FC, qui verra le jour à l'été 2023.
C'est vendeur.
Ouais, ça fait moins rêver. C'est moins parlant que FIFA. Du côté de la FIFA, on promet un jeu concurrent qui pourrait reprendre le nom, hein, FIFA. Il est annoncé pour 2024, mais les spécialistes en sont convaincus. Hein, le quasi-monopole d'EA Sports sur la simulation de football devrait empêcher une fuite massive des fans. La FIFA et Electronic Arts divorce. C'est à retrouver sur le site du Courrier International.
Il y a un autre jeu de foot concurrencé.
Pro Evolution Soccer.
Pro Evolution Soccer.
Qui n'existe plus.
Qui n'existe plus.
Qui n'existe plus.
PES.
Voilà, PES, exactement.
Ouais, c'était le grand débat dans les cours de récré. Team PES ou Team FIFA.
Mais FIFA, on est venu à bout, donc voilà.
Ouais. Merci Martin.
Je vous en prie.
On va parler vacances à présent. Je suis sûr que vous avez commencé à plancher sur la question pour cet été. Et
tu
peut-être
m'étonnes.
Que pour rejoindre votre lieu de villégiature, vous allez prendre l'avion.
Ah
ouais, vous, quant à vous, affreux pollueur, ce à quoi vous me répondrez, qu'aller à Santorin ou à San Francisco en pédalo, c'est loin d'être pratique.
Ouais, c'est pas faux.
Ouais, même voilà. Perceval de Camelot est d'accord avec vous, d'où cet article du Figaro.fr qui donne 4 conseils pour alléger son empreinte carbone si l'on prend l'avion. Première suggestion, voler avec les appareils les plus récents, les Airbus A320 Neo ou les A350, modèle...
Si je peux pas mettre, c'est compliqué de choisir.
Ouais, on n'a pas forcément choix.
Attendez, taisez-vous et écoutez. Les Airbus A320, enfin les modèles les plus récents, modèrent leurs émissions de gaz à effet de serre grâce à des moteurs dernière génération et des fuselages beaucoup plus légers. Si bien que ces modèles ne consomment que 2 à 3 litres de carburant aux 100 km par passager. C'est moins qu'avec une voiture, même hybride, si l'on part du principe que le conducteur est seul dans son véhicule. Vous l'ignorez peut-être, mais au moment de réserver, Martin, il est souvent possible de connaître le modèle de l'appareil utilisé pour le vol envisagé. Et si cette information n'apparaît pas, alors privilégiez les compagnies nationales comme Air France ou les low cost, EasyJet, Ryanair, etc. Elles ont investi dans les appareils les plus récents, à l'inverse bien souvent des compagnies charter, celles qu'on a le plus souvent quand on réserve un package, vous savez, hôtel, plus avion, plus nourriture, plus tout. Deuxième conseil, évitez les vols avec une voire deux escales quand il existe un trajet direct. Car si faire un arrêt à Helsinki pour rejoindre les États-Unis vous coûtera sûrement moins cher qu'un Paris-Los Angeles effectué d'une traite, ça reste un non-sens écologique. Un, ça augmente les distances, donc le temps de vol cumulé. Et deux, chaque escale, c'est un décollage en plus. Or, c'est de loin la phase la plus polluante. Troisième astuce, compenser son empreinte carbone en finançant des projets dits verts, comme la plantation d'arbres ou la construction de centrales photovoltaïques. Plusieurs compagnies, comme Finnair, par exemple, proposent des systèmes de compensation à l'achat du billet, voire en plein vol, comme l'expérimente en ce moment la Lufthansa. Comme ça, si vous êtes pris d'un sentiment de culpabilité en voyant défiler les nuages, vous pouvez sortir votre carte bleue, payer quelques euros et hop, vous voilà l'esprit léger. Chez d'autres compagnies, vous n'avez rien à faire, elles compensent tout d'elles-mêmes. Air France le fait pour ses vols domestiques, EasyJet dans toute l'Europe. Mais attention, tous les projets de compensation carbone ne se valent pas, certains ne servent à rien puisque les arbres sont coupés au bout de 2 ans. D'autres sont carrément nocifs pour l'environnement si l'endroit choisi n'est pas approprié ou si tous les arbres plantés sont de la même essence. Enfin, dernier conseil, voyagez léger. Non, vous n'avez pas besoin, Amblin, de 3 maillots de bain.
Ça, c'est vous qui le dites.
Ou de ramener des tonnes de souvenirs inutiles, Martin.
Pour info, ça, c'est vous qui le dites.
Ouais, pour info, si on allège un avion d'un kilo sur l'ensemble de ses vols opérés sur un an, on économise tout de même 69 tonnes de CO2 sur l'année pour un seul kilo. Comment alléger votre empreinte carbone, Amblin, si vous prenez l'avion, c'est-à-dire sur lefigaro.fr.
Alors figurez-vous que mes maillots de bain pèsent moins d'un kilo.
Oui, non, mais ça, j'en doutais pas.
Et que je ne ramène jamais de souvenirs.
Voilà. Merci Julien. Alors, pardon, je recherche les avions. C'est A320neo.
Oui,
c'est
ou A350.
Ou A350.
Pas les plus récents, quoi.
On fera attention quand on réservera nos projets de vacances à Hawaï.
Pour aller voir les caméléons
voilà. Qui changent de couleur.
Vous jouez à FIFA. Bon, vous avez compris, on passe à autre chose. Allez.
Merci.
Merci à vous.
Avec plaisir. Martin, on se retrouve dans 40 minutes.
À tout à l'heure.
Pour les sports, Nat.
Europe Matin. Amblin Roche et Julien Pierce.
Le retour du sérieux, le retour de l'info, les principaux titres, Johan Trix.
Tout le monde veut savoir, mais finalement, personne ne sait encore, à part Emmanuel Macron. Hier avait lieu un dernier conseil de ministre avec Jean Castex. Le nom de son successeur devrait être connu début de semaine prochaine. Les favorites, deux femmes, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et Elisabeth Borne, actuelle ministre du Travail. La situation en Ukraine où la Russie s'apprête à annexer Kherson, première ville d'ampleur prise par Moscou début mars. Responsable pro-russe vient de faire la demande. Réponse immédiate de Kiev. Les envahisseurs pourraient aussi bien demander à rejoindre Mars ou Jupiter. L'armée ukrainienne libérera Kherson. Une déclaration au moment où la livraison de gaz russe vers l'Europe est pour la première fois affectée. C'est même un gazoduc qui a été coupé. Kiev accuse Moscou. L'impact s'est fait ressentir en Allemagne notamment, qui a constaté une réduction de 25% du transit par rapport à d'habitude.
Des oreilles à nouveau grandes ouvertes ce matin pour les initiatives en France, la chronique de celles et ceux qui innovent.
Bonjour Anthony Chemali.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le cofondateur de Divi. Ça s'écrit D2IV2I et c'est une start-up qui nous propose de partager nos abonnements aux plateformes pour économiser de l'argent. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Exactement. Alors Divi, c'est une plateforme de mise en relation pour du partage de frais d'abonnement. Alors très concrètement, ça marche sur des offres groupées. Donc imaginez que vous avez un abonnement 4 places. Vous gardez une place pour vous et puis pour les 3 places restantes, vous les proposez en co-abonnement sur notre marketplace Divi. Et puis des co-abonnés peuvent rejoindre votre co-abonnement et vous divisez équitablement les frais de votre abonnement. En réalité, ça représente un réel gain en pouvoir d'achat. L'exemple que je prends d'habitude, c'est que pour 4 abonnements Netflix, Spotify, PlayStation et Amazon Prime, qui sont parmi les plus populaires en France, normalement, ces 4 abonnements par an coûteraient 575 euros. Avec le co-abonnement, ça ne coûterait que 145 euros par an, ce qui représente une réduction de 430 euros par an.
Oui, ce qui est considérable. Mais on partage ces codes d'accès à de parfaits inconnus ?
Alors, pas systématiquement. C'est vrai pour certaines plateformes comme Netflix, on doit effectivement partager un mot de passe, mais pour d'autres plateformes comme par exemple Spotify, c'est simplement ajouter une adresse mail à son compte. Et puis, en fait, chaque personne a un compte bien séparé. Donc, on est au sein du même abonnement, mais il y a plusieurs comptes séparés par abonnement.
Mais le fait de partager ces codes d'accès, ça ne présente aucun risque d'abus ou de piratage? Vous vous y engagez?
Alors, Divis, on est vraiment basé sur l'économie collaborative. Donc, il y a également effectivement un facteur confiance, comme il peut y en avoir sur, par exemple, le covoiturage ou bien avec Airbnb, notamment. Donc, effectivement, on partage ces codes d'accès avec des inconnus. Ensuite, on rappelle bien à nos utilisateurs qu'il vaut mieux avoir un mot de passe unique par abonnement lorsqu'ils font du co-abonnement pour éviter que des personnes mal intentionnées essayent d'accéder à d'autres plateformes. En tout cas, au niveau de la sécurité et de la satisfaction client, on a pensé Divi de telle manière à ce que ça satisfasse tout le monde et qu'il n'y ait aucune fraude possible. J'allais dire qu'en fait, au niveau des flux de transactions, par exemple, si moi je souhaite me co-abonner à l'un de vos abonnements, vous allez recevoir un SMS et un email et vous aurez le choix d'accepter ou de me refuser au sein de votre abonnement. Dès lors que vous m'acceptez, je serai débité le premier jour de mon co-abonnement. L'argent va être séquestré 30 jours sur un compte séquestre et à la fin des 30 jours, s'il n'y a pas de litige ou de réclamation, vous recevrez l'argent de vos co-abonnés.
Et Divi fonctionne avec combien de plateformes aujourd'hui?
Alors, on a mappé 120 plateformes éligibles au co-abonnement. Alors, c'est assez large, ça va de la SVOD en passant par la musique jusqu'à la presse écrite et les outils de productivité et même les jeux vidéo. Donc, c'est vraiment 120 plateformes sur énormément de secteurs.
Et vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui qui acceptent de partager leur code d'accès?
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on a 10 000 utilisateurs actifs, dont un quart sont des personnes qui partagent leur abonnement.
Et vous en visez combien pour que Divi commence à devenir rentable?
À partir de 40 000 utilisateurs, on sera très content.
Ouais. Comment vous est venue cette idée de créer cette plateforme de co-abonnement?
Alors, l'idée nous est venue avec mon frère lors du premier confinement. En réalité, on était confinés ensemble et puis à un moment donné, je pense comme beaucoup de personnes, on s'ennuyait et on avait un peu fini de regarder tout le contenu qui nous intéressait sur une plateforme de SVOD bien connue. Et on s'était rendu compte que si on voulait avoir un catalogue intéressant qui nous divertissait, il fallait s'abonner à de multiples plateformes. On s'est aussi rendu compte que, mis bout à bout, ça représentait un budget conséquent. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée en fait, du co-abonnement, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de plateformes qui proposent des offres groupées. Et souvent, la plupart de ces places ne sont pas totalement utilisées. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 places sur un abonnement, mais on va en utiliser une ou deux. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de se dire « Ok, ben on va mutualiser les places qu'on a sur un abonnement et on va diviser les coûts équitablement pour être totalement aligné avec les CGU des distributeurs. » Parce que c'est très important de le dire, un propriétaire d'abonnement ne fait pas de bénéfice sur son abonnement. Ce n'est pas de la revente d'abonnement, c'est simplement du partage de coûts équitable. C'est ce qui fait que c'est légal.
Et puis les tarifs de ces abonnements ont tendance dernièrement à augmenter.
Exactement. En fait, il y a un double facteur qui a aussi contribué au succès de Divi dans un premier temps, c'est le contexte économique dans lequel on est actuellement avec l'inflation et l'augmentation des prix des biens de consommation. Et de l'autre côté, effectivement, c'est l'augmentation progressive des prix, notamment des plateformes les plus connues. Netflix, par exemple, est passé de 12,99€ à 14,99€ pour son offre standard et de 17,99€ à 20,99€ pour son offre premium. Mais c'est des prix qui sont augmentés, qui sont généralisés sur tout le marché, pas uniquement de la SVOD.
Mais est-ce que votre business model n'est pas d'ores et déjà menacé à l'heure où certaines plateformes planchent sur des systèmes pour limiter justement le partage de comptes? Vous avez cité Netflix, et c'est le cas, ils y réfléchissent?
Alors Netflix, en fait, ce qu'ils proposeraient, ce serait de faire payer un supplément pour le partage d'abonnement. Dans notre cas, je ne pense pas que ça va nous être, ça va impacter peu négativement notre business model, parce qu'en réalité, si le prix des abonnements augmente, les consommateurs auront d'autant plus d'incentive à vouloir partager leurs abonnements. En tout cas, les frais de leurs abonnements.
Merci beaucoup, Anthony Chemali, de nous avoir présenté Divi, la plateforme de co-abonnement qui permet d'économiser des centaines d'euros par an. On vous souhaite beaucoup de succès, on n'a pas trop de doutes, hein, vu le contexte, vous l'avez rappelé, et on vous dit à bientôt sur Europe 1.
Merci à vous.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Merci à vous d'écouter Europe 1, vos réveils à suivre le journal de 5h30 avec Christophe Lamar, la fin du suspense sur le ou la prochaine locataire de Matignon, c'est pour bientôt. Et puis cette question, que sentaient les bords de la Seine dans Paris au 19e siècle?
Oui. Ou quels effluves émanaient des perruques des gens de la cour de Louis XV?
ça devait pas être extra quand même. L'odeur du tabac de la pipe que fumait Albert Einstein, alors était-elle la même qu'aujourd'hui? Depuis plus d'un an, une trentaine de chercheurs travaillent sur notre histoire olfactive, retrouver, conserver les odeurs du passé et les recenser dans une encyclopédie. On va revenir sur le projet Odoropa dans un quart d'heure avec notre invitée, la doctorante chercheuse Victoriane Michel.
Et puis juste après, on passera à table.
Respirez cette bonne odeur d'une échine de porc persillé qui frémit au-dessus des braises d'un barbecue. Oui, Olivier Pousse nous parle du porc quinoa et il nous dit surtout comment on le cuisine à 6h-10.
J'ai déjà faim. Nuages et orages sont de retour, Anissa.
Bah oui, finalement, le barbecue, c'était plus pour hier. Ou alors, il va falloir patienter pour le week-end. Voilà, aujourd'hui, on va rester à l'abri parce que c'est le retour des nuages et de quelques orages. Alors, pas pour tout le monde. Hein. C'est vrai qu'on a un temps un petit peu plus mitigé pour ce jeudi. Plus de nuages en alternance sur l'ensemble du pays, donc nuages éclaircis. Et c'est sur la moitié sud, en particulier entre la Gironde et le Grand Est, en passant par le Limousin, l'Auvergne, la Bourgogne. Voilà, dans toutes ces régions-là, sur cette diagonale, on va avoir un temps un petit peu plus couvert avec des averses et les orages qui se déclenchent sur le Massif central et le Jura, des orages qui resteront très localisés. À l'avant de cette petite perturbation dans le sud, au bord de la Méditerranée, c'est toujours du grand et beau soleil. Et puis à l'arrière, sur la moitié nord du pays, on a un temps qui alterne entre nuages et éclaircies. 7 à Saint-Brieuc ce matin, 9 à Laval, 11 pour Poitiers, 12 à Paris, 14 à Lyon et Montpellier, 18 à Strasbourg. Il fait très doux hein, ce matin en Alsace. 17 au Havre cet après-midi, 23 à Paris, Ajaccio et 28 la maximale pour Lyon.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce jeudi, encore un peu de patience. La nomination du nouveau Premier ministre devrait intervenir en début de semaine prochaine. Conséquence, Jean Castex va jouer les prolongations jusqu'à la fin du week-end. La guerre en Ukraine et ses enseignements, conflit observé de près par les experts militaires français. Première conclusion, sur le champ de bataille, le smartphone du quotidien devient une arme. Et puis dans ce journal, la fin du port du masque obligatoire dans les transports à partir de lundi prochain. Imprudence ou mesure de bon sens face au recul des contaminations. En Afrique du Sud, pourtant, l'épidémie rebondit de manière inquiétante.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal à 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ils se diront au revoir ce soir. Les ministres du gouvernement Castex se retrouveront autour de la table à Matignon. Dîner aux allures d'ultime rendez-vous, sauf pour le premier d'entre eux. Jean Castex ne rendra pas les clés de la rue de Varennes demain, ni même samedi, début officiel du second quinquennat Macron, mais plutôt en début de semaine prochaine, Jacques Serret.
Oui, sa démission était attendue pour demain ou après-demain, mais finalement Jean Castex va jouer les prolongations. Le Premier ministre va se rendre dimanche à Rome. Il est attendu au Vatican pour la canonisation de Charles de Foucault, cet ancien militaire français devenu prêtre. Jean Castex emmènera la délégation française à cette cérémonie présidée par le pape François, durant laquelle Charles de Foucault deviendra un saint de l'Église catholique. Ce devrait donc être le dernier déplacement officiel pour le locataire de Matignon, qui devrait remettre sa démission après son retour à Paris, autrement dit pas avant lundi. Emmanuel Macron va donc entamer son deuxième quinquennat qui débute samedi avec le même gouvernement et le même Premier ministre. Mais dès la démission de Jean Castex annoncée, l'identité de celui ou celle qui lui succédera devrait être dévoilée dans la foulée. Ces dernières heures, deux noms sont très régulièrement cités en Macronie. Audrey Azoulay, actuelle directrice générale de l'UNESCO et ancienne ministre de la Culture sous François Hollande, et Elisabeth Borne, favorite pour le poste depuis la réélection d'Emmanuel Macron.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1, dîner d'adieu ce soir, dernier conseil des ministres de l'ère Castex hier avec la présentation du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Il reprend des mesures connues, prolongation du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, chèque alimentaire ou encore suppression de la redevance audiovisuelle. Le texte sera débattu au Parlement après les élections législatives.
On en vient à la guerre en Ukraine. Les forces russes maintiennent la pression sur le Donbass. La ville de Kherson évoque son rattachement à la Russie.
Une annexion pure et simple. Un responsable pro-russe de cette ville occupée depuis début mars va en faire la demande dans les prochains jours. Sur le plan militaire, l'armée de Vladimir Poutine continue de grignoter du terrain dans le sud. La justice ukrainienne de son côté va frapper. Premier procès pour crime de guerre. Un soldat russe de 21 ans doit comparaître pour avoir abattu de sang-froid un civil non armé.
Un conflit, en tout cas observé de très près par les nombreux états-majors occidentaux, à commencer par la France, avec déjà des enseignements sur le plan stratégique.
Même s'ils ne sont pas impliqués directement sur le terrain, les militaires observent minutieusement le déroulé des opérations. L'idée, c'est d'anticiper pour être en mesure de faire face à ce type de conflit. Première leçon, et elle a de quoi surprendre, le smartphone, cet objet du quotidien qui ne nous quitte jamais, peut devenir une arme de guerre sur le terrain, William Molinier.
Oui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Russes détruisent quasi systématiquement les téléphones des Ukrainiens quand ils progressent sur le terrain. Les smartphones renseignent les positions ennemies, mais aussi amies, si bien que n'importe quel civil peut devenir un danger, y compris pour l'armée de son propre camp. C'est une grande leçon de cette guerre, nous explique un haut gradé. La technologie est partout et le smartphone est devenu un outil de combat, alors que, paradoxalement, il ne fait pas partie de l'équipement du militaire français. Et pourquoi pas, imagine-t-on, dans les armées, en faire dans les prochaines années la base de la dotation du soldat du rang, au même titre que le fusil d'assaut, le casque ou le gilet pare-balles. Évidemment, il faudra le sécuriser sur un réseau autonome, nuance cette source, mais il pourrait être utilisé sur le terrain pour faire de la lutte informationnelle, prendre en photo des cibles, faire de la télémédecine d'urgence pour les blessés ou encore investir le champ cyber, car pour envahir un pays, il ne suffit plus d'avoir de la masse ou une puissance de feu. Il faut aussi un soldat aguerri et suffisamment autonome pour prendre la main, par exemple, sur le réseau de caméras de vidéosurveillance de la ville conquise.
Et William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
On revient en France avec l'enquête sur la mort d'Antoine Alino. Le chauffard a été mis en examen et placé en détention provisoire.
L'homme âgé de 24 ans est poursuivi pour homicide involontaire aggravé. Il était en état d'ivresse au moment où la voiture volée qu'il conduisait a percuté le jeune restaurateur. Le chauffard a été déjà recherché pour s'être soustrait à une peine de prison de 9 mois.
C'est le symbole de l'épidémie. Le masque ne sera plus obligatoire dans les transports à partir de lundi.
Annonce du ministre Olivier Véran. Hier, fini le masque dans le train, le métro, les taxis et dans les aéroports. Conséquence du recul de l'épidémie, contamination et entrée à l'hôpital continue de baisser. Exemple dans les services de soins critiques, on est passé sous la barre des 1400 malades.
Pour autant, on n'en a pas fini avec l'épidémie, c'est ce que disent les médecins. Et en Afrique du Sud, cette épidémie, elle rebondit même fortement.
Reprise due à un sous-variant d'Omicron, son nom ou plutôt ses noms, BA4 et BA5. Le nombre de cas a été multiplié par 5 en 3 semaines. Un épidémiologiste sud-africain prévient, ce qui se passe chez nous peut guider le monde entier. Yasmine Akatou, faut-il craindre une 6e vague en France ?
Eh bien, pour l'heure, il n'y a pas de risque que l'épidémie reprenne en France à cause des variants BA4 et BA5 pour plusieurs raisons. D'abord, ces sous-variants d'Omicron sont présents dans le pays depuis plusieurs mois et n'ont pas pris le dessus sur le variant actuel, le BA2. Selon les autorités, seulement 2 contaminations à BA4 et BA5 ont été recensées. Et puis parce que l'été arrive, explique Mircea Sofonea, épidémiologiste.
Nous allons vers des jours de plus en plus longs et chauds, en étant davantage à l'extérieur, en aérant plus régulièrement. Ça, couplé à une régression actuelle de l'épidémie, fait que de nouveaux variants, quels qu'ils soient, ont plus de mal à s'installer et à circuler.
Or, l'Afrique du Sud va vers l'hiver et des températures fraîches. Il faut ajouter à cela qu'en France, plus de 70% de la population a reçu 2 doses de vaccin, contre à peine 30% des Sud-Africains. En revanche, les scientifiques n'écartent pas une reprise épidémique avec des sous-variants d'Omicron ou avec un autre variant, probablement à l'automne prochain.
Yasmina Katou.
Le football avec hier soir 2 matchs en retard de la 36e journée de Ligue 1. Rennes dit pratiquement adieu à la Ligue des Champions. En revanche, les Niçois, eux, peuvent encore y croire.
Ouais, défaite des Rennais dans le derby breton 2-1 face à Nantes. Nice peut encore se qualifier pour la Ligue des Champions. Victoire 4-2 des Niçois face à Saint-Etienne. La défaite des Verts offre un sursis à Bordeaux et permet à Angers de se maintenir officiellement en Ligue 1.
C'est un événement aux États-Unis, l'ouverture d'un musée consacré à un certain Bob Dylan.
Le musicien et prix Nobel de littérature a droit à un musée qui lui est entièrement dédié. Le Bob Dylan Center a été inauguré hier à Tulsa dans l'Oklahoma. Toutes ses archives y sont exposées. Nicolas Caro.
Des poèmes manuscrits, des correspondances ou des notes diverses sur des pochettes d'albums, Bob Dylan, alias Robert Zimmerman, prix Nobel de littérature, a vendu toutes ses archives à une fondation en 2016. 100 000 documents sont maintenant réunis en un seul et même lieu, le Bob Dylan Center, en Oklahoma, juste au-dessus du Texas. 3 étages de haut et sur la façade, un gigantesque portrait de l'artiste. Certaines pièces, cela dit, ne seront accessibles et consultables que sur demande par des universitaires. Le Bob Dylan Center abrite aussi une sculpture du chanteur. Il accueillera des expositions consacrées à des artistes dont l'univers se rapproche de celui de Bob Dylan. La première présentera le travail du cinéaste Jerry Schatzberg. Mais si le voyage est trop long, Bob Dylan s'expose aussi en France, en Provence, au Château Lacoste exactement, avec une sculpture intitulée Relcar et 24 peintures depuis 7 semaines et jusqu'au 15 août.
Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. C'est pas mal de finir en musique sur du Bob Dylan.
Ah, je dirais même que c'est fantastique. On voilà. devrait même si terminer cette matinale avec Bob Dylan.
Si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Tulsa au Bob Dylan Center dans l'Oklahoma, bah vous pouvez toujours vous mettre un petit Bob Dylan dans les oreilles.
Absolument. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses à présent. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est en semi-nocturne à 20h15 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp que va se courir ce Quintet. Un handicap exclusivement réservé à la jeune génération des poulains et pouliches âgés de 3 ans. Et parmi les 16 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic deux des trois pensionnaires de l'entraînement d'Auvillais de Yann Barbereau, les numéros 3 Momento Gusto, qui restent sur deux faciles victoires dans des handicaps et dont les limites actuelles restent à déterminer, et 5 Régalien, qui lui vient d'obtenir deux secondes places et dont l'honnêteté et la régularité mériteraient bien d'être enfin récompensés par une première victoire à ce niveau. Derrière ces deux priorités, je vous recommande Super Cali, le numéro 1, titulaire de 3 victoires depuis le début de sa carrière et qui de ce fait devra porter le top weight de ce handicap avec 60 kilos, mais aussi Jovial Béré, le numéro 4, qui nous arrive de Marseille, précédé d'une flatteuse réputation. Enfin les numéros 16, Winan, 9, Cour du Roi, 2, Micoléo et 11, Everio, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 5, As, 4, 16, 9, 2 et 11.
3, 5, As, 4, 16, 9, 9 2, 2 11. Et 11. Moi j'aime bien Jovial Béré. Oui. Merci beaucoup Thierry Léger pour vos pronostics qu'on retrouve sur Europe1.fr.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu
de la... C'est le premier jour de l'Euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et aujourd'hui, le chanteur Michel Fugain fête ses 80 ans. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Amblin.
Laure, tout a commencé pour Michel Fugain avec sa troupe, le Big Bazar.
Oui, une troupe qu'il crée au début des années 70. Michel Fugain abandonne ses études de médecine, il s'essaie d'abord au cinéma, puis se convertit à la musique. Cette troupe Fugain et le Big Bazar est constituée de comédiens, de musiciens, de chanteurs. Les voici en 1973 dans l'émission Musicorama sur Europe 1.
Attention mesdames et messieurs, c'est important, on va commencer. Il se trouve dans la même histoire depuis la nuit des temps.
Immense succès pour la troupe qui se produit à l'Olympia en 74. Michel Fugain n'en revient pas.
On ne pensait pas que ça allait marcher comme ça. C'est un peu inespéré pour nous, quoi. On ne comprend pas. C'est un spectacle où les gens viennent et en laissant petit à petit retirer la cravate, desserrer les dents, il y a le sourire qui vient, quoi. C'est formidable. On les voit, nous, devant. Je crois que nous avons choisi la farce précisément parce que ça nous permettait de tourner en dérision, de nous amuser, et on s'amuse tous les soirs.
La particularité, c'est que la troupe est gérée en coopérative. Michel Fugain ne gagne pas plus que les autres membres. Et dans la troupe, il y a Stéphanie, qui devient ensuite son épouse. C'est de cette époque aussi que datent les tubes « Une belle histoire » et « Fait comme l'oiseau ».
C'est un beau roman. Chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi, le midi.
Les tournées se succèdent et après 4 albums, Michel Fugain quitte la troupe en 1976 et la troupe s'arrêtera, alors, quelques années plus tard.
Oui, il bouillonne d'idées. En 79, Michel Fugain crée un atelier de comédie musicale. Il s'explique sur cette boulimie de travail sur Europe 1 en 2005.
Jamais j'arrête.
Est-ce que vous êtes épaté par votre propre parcours ?
Alors si je dis non, je vais passer pour un sale connard qui est fier de lui. Mais pourtant, je ne suis pas épaté. J'ai bossé, j'ai cherché, je me suis planté. Je la vois, la trajectoire, avec des pleins, des déliés. C'est ce qui est passionnant, quoi.
La mort de sa fille, Laurette, d'une leucémie, bouleverse évidemment sa vie. Il travaille encore plus pour tenir debout. Et en 2010, Michel Fugain raconte sur Europe 1, au micro de Faustine Bollard, quelle est pour lui la recette du bonheur ?
J'aime pas ce mot, c'est marrant, hein ? J'aime pas ce mot, c'est pas bien le bonheur, c'est lénifiant. Je crois au petit bonheur après une réussite, un truc, ça doit être flash, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui s'arrête dans le temps.
Et Michel Fugain chante toujours aujourd'hui, 55 ans après ses débuts.
Je n'aurai pas le temps.
Et il sera ce soir sur la scène de Bobino à Paris, un spectacle qui s'appelle Fugain fait bande à part. Merci beaucoup Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour ouf. Dans un instant sur Europe 1, le projet Eau d'Europa, une encyclopédie olfactive. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h44 sur Europe 1, excellent début de matinée à tous. Et on s'intéresse à présent à ce projet européen qui a du nez. Son objectif, constituer d'ici 2023 la première archive olfactive d'Europe, c'est-à-dire recenser, décrire, analyser les odeurs qui nous ont accompagnés ces 4 derniers siècles. Eau d'Europa, c'est son nom, a été lancé il y a un peu plus d'un an maintenant.
Oui, et il réunit une trentaine de chercheurs originaires de 6 pays, des historiens, des chimistes, des parfumeurs, des experts en intelligence artificielle. Et vous en faites partie. Bonjour Victoria Anne-Michel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes doctorante chercheuse au sein du projet Horizon 2020 Eau d'Europa depuis avril 2021. Voilà donc plus d'un an que vous travaillez sur cette mémoire de nos odeurs. Pourquoi vouloir créer cette base de données olfactives ?
Le projet Horizon 2020 Eau d'Europa a pour objectif de créer cette base de données olfactives pour engager les musées, le public, les parfumeurs et les parfumeuses, à davantage considérer les odeurs et à davantage les utiliser pour raconter notre histoire et pour nous engager dans notre patrimoine.
Les recherches commencent par des textes, des peintures anciennes sur lesquelles sont relevées puis répertoriées toutes les références aux odeurs. Et ensuite, ça se passe en laboratoire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il y a une partie extraction de données par ordinateur, donc aller chercher toutes les références aux odeurs dans des textes, dans des images, dans des peintures, dans des iconographies. Et ensuite, il y a aussi les historiens et les historiennes qui interviennent pour expliquer le contexte dans lequel ces odeurs ont été senties, comment est-ce qu'elles ont été perçues, quel rapport on avait aux odeurs à telle époque, à tel endroit. Mmh. Et pour la partie analyse chimique, ça se passe en effet en laboratoire. Donc on a quelques chercheurs et chercheuses en chimie analytique et en sciences du patrimoine qui vont, à l'aide d'un capteur sensoriel, capturer les composés organiques volatiles présents dans un espace autour d'un objet historique ou dans un espace un peu plus large dont les odeurs sont importantes. Mmh. Et ensuite, cette petite fibre-là va être passée dans une machine qui s'appelle un chromatographe en phase gazeuse. Et donc, tout ça va nous donner des indications sur la nature de ces composés organiques volatiles. Et il y a aussi l'intervention d'échantillons de personnes qui vont sentir ces relevés-là et ces odeurs-là et donner leurs impressions avec des mots, avec en caractérisant l'intensité de l'odeur, l'agréabilité et toute autre chose qu'elles trouvent pertinente.
L'odeur, c'est quoi ? C'est de la chimie, en fait. C'est un assemblage de molécules. Donc, vous conservez, au final, des formules chimiques ?
C'est à la fois une réalité moléculaire et une interprétation mentale de cette réalité-là. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est la façon dont on perçoit l'odeur qui en définit la nature.
Mais on peut les capturer. On peut capturer aussi cette odeur dans un flacon, comme un parfum, oui. Ou cela passe nécessairement par un manuel et cette encyclopédie, en l'occurrence, dont il est question.
Alors, il y a deux façons de recréer les odeurs, en quelque sorte, de les ramener à nos narines aujourd'hui. Dans un premier temps, une interprétation des odeurs, donc par exemple d'une scène dans un tableau ou d'une source odorante qui est évoquée dans un texte ou dans un tableau. Et donc là, on interprète, donc on utilise en fait le savoir des parfumeurs et des parfumeuses pour recréer cette odeur selon leur interprétation. Et on peut aussi recréer des odeurs en se basant sur des recettes, des formules historiques. Et on peut aussi préserver l'analyse chimique dont je vous parlais tout à l'heure pour en faire un patrimoine et pour le léguer au futur.
Quand une senteur perdue est reconstituée, comment être sûr qu'il s'agit bien de l'odeur, j'ai envie de dire originelle, respirée par nos ancêtres, hein, finalement, quand on sait que les perceptions olfactives sont variables d'une personne à une autre. Est-ce qu'on peut être sûr de ce qu'on va reconstituer en laboratoire ? C'est ce que respiraient les personnes il y a 100, 200 ans peut-être ?
Alors là, c'est tout l'intérêt de la recherche d'Eau d'Europa. C'est justement de donner le maximum d'informations à la personne qui va sentir avec ses propres narines, avec sa propre expérience, avec sa propre émotion sur le moment. Lui donner un maximum d'informations sur comment cette odeur était perçue à l'époque, dans quel contexte elle était sentie, pour que la personne s'immerge au mieux lorsqu'elle sent cette odeur. On sent jamais dans l'absolu, on sent de façon relative. Et d'avoir toutes ces recherches faites par les chercheurs au sein de l'Europa, donne beaucoup d'indications de savoir pour sentir au plus proche, en tout cas pour avoir le maximum d'informations sur comment est-ce qu'on sentait et dans quel cadre on sentait cette odeur-là à l'époque.
Odoropa, donc le but c'est de créer cette encyclopédie, ces archives des odeurs. Diriez-vous que les odeurs sont menacées, qu'elles disparaissent aujourd'hui, peut-être par un environnement trop aseptisé ou des parfums très uniformes?
Je ne dirais pas qu'il y a moins d'odeurs qu'avant, je dirais juste qu'elles se transforment. Je pense que c'est très important de savoir, de connaître au mieux notre passé pour le comprendre, pour apprendre du passé, pour mieux appréhender le futur aussi. Et je pense que c'est une façon très directe, très émotionnelle, qui parle un peu à tout le monde, ou en tout cas qui émeut les gens, d'avoir des informations sur le passé. Et du coup, c'est aussi important pour nous faire mieux sentir aujourd'hui et être plus alerte sur nos environnements olfactifs actuels et sur, par exemple, des questions comme les questions de pollution, les questions d'identité d'un lieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'odeur d'un lieu dans son identité, dans sa transformation? Et je pense que les odeurs sont un excellent moyen de transmettre ces histoires-là, de sensibiliser les gens à ces questions, notamment olfactives, mais de façon plus large à ces questions de contexte et de transformation historique et de transformation aussi actuelle, parce qu'en fait, on est en train de faire l'histoire.
Oui,
donc,
sûr.
On est en train, à travers les odeurs aussi, de dire quelque chose sur notre histoire.
Oui, de ressentir l'histoire différemment, finalement, pas seulement la voir ou la comprendre, mais la respirer aussi. Merci beaucoup, Victoria Anne-Michel, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, doctorante-chercheuse au sein du projet Horizon 2020, Odoropa. Odoropa, ce projet de recherche européen afin de raconter notre histoire de manière olfactive. Merci encore, bonne journée.
Merci beaucoup, merci à vous, bonne journée.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
5h51, l'essentiel de l'actualité, Johan Tritz.
Premier procès pour crime de guerre en Ukraine. Un soldat russe de 21 ans va être jugé à Kiev, accusé d'avoir tiré et abattu des civils au hasard. Une première victoire pour Emmanuel Macron, un succès qui a mis du temps à se dessiner. 5 ans après la promulgation de l'ordonnance, l'application systématique d'encadrement des licenciements vient d'être validée par la Cour de cassation. Emmanuel Macron qui a remercié ses ministres lors du Conseil hier. Place au changement maintenant, on attend le nom du remplaçant de Jean Castex en début de semaine prochaine. Le Premier ministre encore pour quelques jours qui va jouer les prolongations, il va assister à la canonisation de Charles de Foucault au Vatican ce dimanche.
Allez, on passe à table à présent avec notre spécialiste gastronomie.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour Olivier, vous nous proposez aujourd'hui un cochon, mais pas n'importe lequel, le quintoa, emblème du Sud-Ouest.
On le sait, tout est bon dans le cochon, mais hélas, tous les cochons ne sont pas bons. Alors celui dont je vous parle aujourd'hui fait incontestablement partie des meilleurs, que ce soit pour élaborer le jambon, la charcuterie en général, ou la viande, que l'on peut par exemple griller au barbecue, il commence à faire beau. Mmh. Le porc quintoa, et c'est de lui dont il s'agit, vous l'avez dit, fait à nouveau la fierté du Pays Basque, où il bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 2016, après avoir, figurez-vous, frôlé l'extinction. Et est-ce que vous savez d'où vient son nom d'ailleurs,
quintoa?
Non.
Eh bien, ça vient d'un impôt qui s'appelait la quinta, que devaient payer au XIIIe siècle les paysans qui traversaient la vallée pour se rendre dans les montagnes, accompagnés de leurs cochons, évidemment.
Et comment il a été sauvé, ce cochon?
Alors, ce petit cochon rustique et historique du Pays Basque de race pinoire était jugé, en fait, peu rentable, et on lui avait préféré au XXe siècle des races plus productives, plus grosses, plus charnues en viande, à tel point que dans les années 80, il ne subsistait plus que quelques dizaines d'exemplaires de ce quintoa. Alors un collectif d'éleveurs mené par Pirotesa va alors décider de le sauver 30 ans plus tard. Mission accomplie, il y a aujourd'hui environ 60 éleveurs pour plus de 2000 porcs. Il fait partie, avec le porc noustral corse par exemple, des 6 espèces locales de cochons encore présentes en France.
Un porc qui, on l'imagine, est l'objet de toutes les attentions.
Et évidemment, pas d'élevage intensif ici, mais une vie au grand air, en semi-liberté. Pour ces cochons qui se nourrissent d'herbes, de racines, de châtaignes et de glands, ils ont donc une croissance lente, ils sont détendus, et ils sont abattus entre 12 et 24 mois et font en moyenne une centaine de kilos, ce qui est assez petit, en fait, pour un cochon.
Et ce sont des cochons, Olivier, qui donnent naissance à l'un des plus fameux jambons français.
Ben oui, vous savez, on parle beaucoup du patane Negra espagnol, fameux mais parfois un peu galvaudé, il faut bien le dire, et surtout très cher. Les jambons de porc quintoa n'ont pas grand-chose à leur envier, en fait. Les jambons qui sont au minimum séchés pendant 16 mois, ils sont travaillés au sel de Saliès de Béarn, appellation d'origine protégée, et au piment d'Espelette. Et c'est le climat du Pays Basque, alternance de moments secs et humides, de courants chauds et d'air marin frais, qui va permettre à ce jambon de déployer toutes ses saveurs pendant son élevage. Le secret du jambon, c'est évidemment son gras, qui apporte moelleux et saveur, on le sait, hein, le gras c'est la vie. Mais il ne faudrait pas négliger non plus la viande fraîche de ce cochon, qui est vraiment très goûteuse et particulièrement intéressante.
Alors la période des barbecues commence, j'imagine Olivier que vous avez des idées pour le cuisiner.
Et bien sûr, alors plutôt qu'une côte de bœuf, essayez donc une côte de cochon quintoa, hein, taillée bien épaisse et qui fait merveille sur la braise. Je précise quand même que c'est moins cher que le bœuf. L'échine est son côté très persillé, mais aussi évidemment des saucisses. Et puis, mon favori, le travers, que vous faites mariner une douzaine d'heures avec des herbes et du piment d'Espelette. Une cuisson au four d'abord durant 4 heures à 120 degrés pour la confire. Et puis hop, la viande sur le barbecue pour la faire croustiller.
Merci Olivier.
Et bon appétit.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal, votre invité Julien.
Ibrahim Moni, c'est le porte-parole de l'association des familles des victimes de la Yemenia Airways, compagnie aérienne dont le procès pour homicide et blessures involontaires a débuté à Paris en début de semaine, 13 ans après le crash du vol 626 au large des Comores, drame qui a coûté la vie à 152 personnes. Qu'attendent les familles des victimes de ce procès? Quelles ont été les défaillances supposées de la Yemenia qui réfute de son côté toute responsabilité? D'ailleurs, aucun de ses dirigeants n'a fait le déplacement. Est-ce un handicap dans la quête de vérité sur ce qui s'est passé exactement ce 30 juin 2009? Réponse dans une dizaine de minutes avec notre invité. Et puis juste après, on bline votre partition.
Cap au Sud avec les Rolling Stones. Villefranche-sur-Mer, près de Nice, une villa majestueuse qui restera à jamais un haut lieu du rock. C'est là où a été enregistré l'album Exile on Main Street des Stones, la partition dans 20 minutes.
Anissa Dadi pour la météo, elle sera moins chaude et plus nuageuse aujourd'hui.
C'est une journée un petit peu moins bien que ce qu'on a pu avoir hier, une journée, une sorte de transition. Mais alors attention, hein, on ne va pas vers le moins bien, ça va durer juste 24-48 heures. On va retrouver des conditions très, très agréables et presque estivales dans quelques jours. Alors ce matin, on a 6 à 16 degrés du nord au sud. Cet après-midi, l'ambiance sera quand même beaucoup moins lourde avec 16 degrés à Cherbourg, 18 à Brest et Dunkerque, 20 degrés à Lille et La Rochelle, 22 pour Nice, 23 à Paris, Bordeaux, 26 à Saint-Etienne et 28 à Lyon pour la maximale. Dans le ciel, donc plus de nuages, vous le disiez Julien, surtout sur la moitié sud avec des averses en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne, sur le Grand Est, sur le Massif Central et le Jura. On retrouve sur les reliefs des orages cet après-midi sur la Méditerranée, hein, sur le pourtour méditerranéen et la Corse, on a toujours un très grand soleil. Et puis sur la moitié nord, bah vraiment, on a un ciel partagé entre nuages et éclaircies, mais en fait tout ça reste très agréable.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Nous sommes le jeudi 12 mai. Il est 6h. Et à la une, cette question, la France va-t-elle finir par manquer de lait? La filière s'inquiète face au départ d'éleveurs assommés par l'inflation. Une production freinée aussi par la sécheresse, on vous explique tout dans un instant. Fini le masque dans les transports publics la semaine prochaine. Une respiration accordée par le gouvernement face à l'amélioration de la situation sanitaire. Est-ce que les spécialistes aussi valident ce calendrier? Vous les entendrez. Et puis le musée du Moyen-Âge à Paris retrouve une seconde jeunesse. Après plus de 10 ans de travaux, il rouvre ses portes aujourd'hui pour découvrir ses trésors. Rendez-vous à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Un journal qui vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Un réveil difficile pour la filière du lait. 6 heures, l'heure de la traite pour la plupart de nos 50 000 éleveurs. En 20 ans, ce nombre a été divisé par 2 et la France, deuxième producteur européen, est désormais menacée par une pénurie. Le principal syndicat de la filière redoute même une accélération des départs. Des agriculteurs écœurés par l'inflation, découragés aussi par la sécheresse de ces dernières semaines. Élise Dangean.
Certains ont déjà sauté le pas, d'autres y songent, vendre leurs vaches, se séparer de leur main-d'œuvre et arrêter le lait pour devenir céréalier, par exemple. C'est le cas d'Aurélien, un jeune agriculteur avec un cheptel de 80 vaches laitières.
On se pose la question forcément en ce moment parce que toutes nos charges ont doublé et le lait, bah, il a très légèrement augmenté. Et c'est pour ça que ça devient très compliqué.
Selon les professionnels du secteur, il faudrait augmenter le prix du lait d'environ 20% pour que les producteurs parviennent à absorber l'inflation. Sauf qu'aujourd'hui, dans les rayons, nos briques de lait sont quasiment toujours au même prix. Il faut donc agir vite, selon Daniel Perrin, secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs de lait.
Un producteur qui arrête, il n'est jamais remplacé. Ça, c'est comme dans un petit village. Quand il y a un commerce qui ferme, il rouvre jamais. Moi, j'ai dit attention, danger, c'est que demain, on importe des produits qui ne respecteront pas les normes qu'on impose aujourd'hui aux producteurs français.
Le secteur appelle donc à une hausse des prix, notamment dans la grande distribution, avec à l'appui ce constat dressé par France Agrimaire. Une hausse de 5 centimes sur le litre de lait, c'est 40 euros de plus pour le producteur et un impact modéré de 25 euros de plus par an à débourser pour le consommateur.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1 a noté que 6 Français sur 10 consomment du lait au moins une fois par semaine, très loin derrière l'Irlande et la Finlande, les deux plus gros consommateurs du continent. Un dîner d'adieu ce soir à Matignon. Jean Castex réunit ses ministres pour une dernière soirée avant la nomination d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre devrait démissionner en début de semaine prochaine après un déplacement dimanche au Vatican.
Et vous ? Est-ce que vous vous sentez prêt à retirer votre masque dans un bus ou un train bondé ?
En tout cas, vous avez jusqu'à lundi pour y réfléchir. Dès la semaine prochaine, fini le masque obligatoire dans les transports publics. Le gouvernement l'a annoncé hier. Même chose dans les avions et les aéroports de l'Union européenne. Une décision saluée par l'épidémiologiste Alice Desbiol.
Il n'est pas trop tôt pour retirer l'obligation du port du masque dans les transports. En effet, les indicateurs Covid sont très bas actuellement, avec un niveau de tension en réanimation en France de 27%. Et je rappelle que l'étude Comcor de l'Institut Pasteur de mars 2021 ne retrouvait pas de sur-risque d'infection dans les transports en commun. Il conviendrait de cibler les interventions de prévention sur les personnes à risque qui le souhaitent. Et donc, bien sûr, si les personnes à risque souhaitent continuer à porter le masque, cela me semble plus pertinent qu'une obligation du port du masque pour tout le monde dans les transports en commun.
L'épidémiologiste Alice Desbiol, joint par Yasmine Akatou. La France qui compte environ 38 700 nouveaux malades en moyenne chaque jour. On est en tout cas loin, très loin du décompte officiel de la Corée du Nord. Le pays a annoncé cette nuit son premier cas officiel de Covid depuis le début de la pandémie.
Mais il annonce d'ailleurs un confinement.
6h04 sur Europe 1. Peut-être sentez-vous l'odeur des tartines grillées ou des viennoiseries tièdes dans votre cuisine. Le plaisir d'un bon petit déjeuner. Cela peut vous paraître totalement anodin, mais pour Clara, 11 ans, c'est déjà beaucoup.
Et c'est une histoire qu'on a voulu vous raconter ce matin sur Europe 1. Cette fillette de 11 ans souffre d'une maladie rare qui l'empêche d'avaler normalement et de profiter en conséquence du goût des aliments.
Oui, ça c'était jusqu'à cette initiative d'un chef étoilé lyonnais, Christian Tête d'Oie, a collaboré avec les Hospices Civils de Lyon pour créer un spray au goût macaron. C'est le dessert préféré de Clara que Jean-Luc Boujon a rencontré pour Europe 1.
Voilà de longs mois que Clara ne mange plus. Souffrant d'une maladie rare, la petite fille de 11 ans ne fait que se nourrir par sonde, car tout ce qu'elle ingurgite, elle le rejette aussitôt et ne sait plus ce que plaisir du goût veut dire. Il y a un an, avec l'aide de sa tante, elle écrit donc au chef étoilé Christian Tête d'Oie pour savoir s'il pourrait mettre au point quelque chose qui aurait le goût du macaron, son dessert préféré. Le résultat, c'est un spray concocté par le chef.
On fait des décoctions pour concentrer les goûts au maximum, saveur vanille et amande. Le spray va vous pchiter des micro-gouttelettes, donc du coup, ça vient tapisser un petit peu la bouche de tous ces arômes. Et pour elle, qui n'avait pas pu remanger depuis 11 mois, ça a été un véritable moment de bonheur.
Ce que confirment Clara elle-même et sa tante Nora.
Elle redécouvre le goût, parce que c'est une chose qu'elle avait perdue après tant de mois de réanimation. C'est bon, c'est savoureux, voilà. Et c'est ça que je pense qu'aujourd'hui qu'il apporte et qui fait oublier la maladie, quoi.
Une redécouverte du plaisir capital pour la guérison, estime Véronique Randon, du service réanimation de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants.
On ouvre une pochette surprise et à l'intérieur, on capte les instants de bonheur. Et voilà, on va sur une marche en avant.
Le spray Tête d'Oie existe aussi en goût fraise et chocolat. Son utilisation va bientôt pouvoir se faire pour tous les malades qui ont des difficultés à s'alimenter. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Une question à 6h05 sur Europe 1. Qui a dit que le Moyen-Âge ne se résume qu'à une période sombre de l'histoire ? Lumière sur le nouveau musée national de Cluny qui rouvre aujourd'hui.
Oui, un musée nouvelle génération après 11 ans de travaux. 1600 objets dépoussiérés, réorganisés dans une vingtaine de salles avec des trésors à découvrir. Visite guidée avec Marie Jiquel.
23 millions d'euros dépensés et Cluny est métamorphosé. Une entrée plus grande, des vestiges gallo-romains rénovés et un nouveau parcours accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. La visite débute avec une salle bienvenue en ces températures élevées, le Frigidarium qui porte bien son nom. L'air est frais sous ses voûtes hautes de 14 mètres.
Ça a toujours été un lieu très très convivial.
Mais la pièce préférée de Séverine Lepape, la directrice du musée, c'est celle qui abrite le joyau des lieux.
J'adore la Dame à licorne. Quand j'ai des petits coups de blues, je vais voir les dames et elle me remonte le moral.
La célèbre Dame à la licorne, des immenses tapisseries de la fin du XVe siècle, 5 représentent les 5 sens et la 6e intitulée « À mon seul désir » reste énigmatique.
Le mystère ne doit pas être percé, le mystère doit rester entier pour que chacun puisse avoir sa grille de lecture.
Autre article précieux, dans cette statuette, il y aurait le cordon ombilical du Christ, mais...
Est-ce que vous avez ouvert cet écrin ?
Alors je pense qu'il a déjà été ouvert, il n'y a plus rien.
Bon, plus de cordon, mais le musée possède d'autres reliques, tout aussi insolite.
Voilà le reportage de Marie Jiquel au musée de Cluny pour Europe 1.
Et c'était le journal de Romain Oquet. Merci beaucoup Romain.
6h06, les sports.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et une nouvelle polémique dans les tribunes.
Oui, avec ce chant entonné hier par les supporters niçois, tendez l'oreille, c'est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano Sala, sous l'eau. Référence à Emiliano Sala, l'ancien attaquant de Nantes, tragiquement décédé dans un accident d'avion en 2019. Une attitude qui a rendu fou le coach niçois Christophe Galtier.
On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. J'ai pas de mots. On peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
Sur le terrain, Nice s'est imposé 4-2 contre Saint-Etienne. Les Niçois repassent 4e devant Rennes, battu par Nantes, ironie de l'histoire. Du côté des Verts, on n'est pas encore sauvé à 2 journées de la fin, mais Pascal Duprat y croit.
50% de chances de se maintenir pour la Saint-Etienne. C'est ce que je disais le 15 décembre, alors que la situation était plus compliquée qu'aujourd'hui. J'ai toujours dit une chance sur deux, et c'est encore le cas aujourd'hui.
L'entraîneur de Saint-Etienne, Pascal Duprat, au micro de Frédéric Hélion.
Cyclisme à présent, Martin. Première victoire française sur le Tour d'Italie.
Oui, Arnaud Démare a levé les bras hier en Sicile. 2e dimanche, le Picard tournait autour de sa première victoire de l'année depuis quelques jours. C'est désormais chose faite avec en prime le maillot cyclamen de meilleur sprinter. Pas encore un objectif, écoutez.
Savoure cette victoire qui me fait vraiment du bien, qui va faire du bien à tout mon effectif. Sur un grand tour, c'est quand même quelque chose de gagner. Après, voilà, le cyclamen, je l'ai pour l'instant, mais je sais que là, c'est encore loin, c'est la Vérone.
Arnaud Démare qui pourrait faire la passe de 2 cet après-midi. Nouvelle arrivée au sprint attendue en Calabre.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Du volley, un 8e titre de champion de France pour Montpellier. Les Héroletais ont battu Tours hier soir. Du handball et le PSG devra cravacher pour voir le Final Four de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont été tenus en échec hier soir à domicile par Kiel, 30 partout. Match retour la semaine prochaine en Allemagne. Et puis un mot de basket. Le Serbe Nikola Jokic a été désigné MVP, meilleur joueur de la saison en NBA. 2e distinction de rang pour le pivot des Denver Nuggets.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on va s'intéresser au procès de la Yemenia Airways qui a débuté en début de semaine. Le porte-parole de l'association des familles de victimes du crash de 2009 sera avec nous en studio. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h10 sur Europe 1. Votre invité Julien est porte-parole de l'association des familles de victimes de la Yemenia Airways.
Bonjour Ibrahim Moni.
Oui, bonjour.
Merci infiniment d'être en studio avec nous ce matin. 13 ans après le crash de cet Airbus A310 au large des Comores, catastrophe qui a coûté la vie à 152 personnes, dont votre maman, votre sœur et votre frère. Un drame qui est décortiqué depuis le début de la semaine par le tribunal judiciaire de Paris. La compagnie aérienne Yemenia y est jugé en correctionnel pour homicides et blessures involontaires. Qu'attendez-vous de ce procès, Ibrahim Moni ?
Ben, nous attendons qu'elle soit sévèrement sanctionnée pour les pratiques, parce que c'est une compagnie qui est très négligente niveau sécurité, et aussi même, le tribunal le mettra certainement en lumière, dans la formation de leurs pilotes. Et du coup, c'est des pratiques qu'il faut qu'elles cessent.
Quelles ont été, à vos yeux, les défaillances en 2009, le jour de ce crash de la Yemenia Airways ?
Ce jour-là, le procès aussi, j'espère que ça sera démontré dans le procès, c'est que le pilote a eu plusieurs manquements dans son approche, dans l'atterrissage
de l'aéroport de Moroni.
À l'aéroport de Moroni, voilà.
Ouais. Je précise que c'est ce que dit l'ordonnance de renvoi. Les juges d'instruction ont souligné que, selon les expertises, la cause principale de l'accident provient, je cite, des actions inadaptées accomplies par l'équipage dans le cadre de l'approche de cet aéroport, ce qui a conduit à la perte de contrôle de l'avion. Donc, l'appareil en lui-même serait hors de cause.
Oui, pour le moment, oui. L'appareil sera de cause, mais il faut aussi souligner que c'est un Airbus qui avait été à un moment donné interdit de survol de l'espace européen, notamment en France, en 2007.
Donc vous parlez d'avion poubelle, c'est ça ?
Oui, c'est l'expression qui se répète souvent pour ce type de compagnie.
En revanche, ces mêmes juges d'instruction, vous l'avez rappelé, ont relevé divers manquements de la Yémenia, notamment les formations insuffisantes des pilotes, vous l'avez dit, et le maintien des vols de nuit, en dépit du dysfonctionnement récurrent à l'époque des feux qui balisent les pistes de l'aéroport de Moroni. Donc ce drame, est-ce qu'il aurait pu être évité selon vous ?
Oui, exactement, parce que depuis d'ailleurs cet événement tragique, il n'y a plus de vol de nuit aux Comores. Donc il faut comprendre qu'on aurait pu le faire bien en amont, vu que dès le départ on savait qu'il y avait des manquements au niveau des infrastructures aéroportuaires à Moroni.
De son côté, la Yemenia Airways conteste toute responsabilité, mais elle conteste par voie interposée, puisque aucun de ses dirigeants n'est présent à ce procès, qui a débuté lundi. Donc la compagnie prétexte la guerre civile qui se déroule au Yémen. Vous la vivez comment, cette absence ?
C'est, pour nous, on le vit comme du mépris. Du mépris pour nous, les familles des victimes, mais aussi une forme d'injure envers nos disparus, nos morts. Parce que je pense que la guerre à Bondo, quoi, dans cette histoire, ils profitent de ça parce qu'ils vous auraient pu. Je pense que, et même d'ailleurs, on espère quand même, nous, les familles de victimes, qu'il y aura des actions qui peuvent être menées pour contraindre la compagnie quand même à se présenter au tribunal.
Ça handicape ce procès, le fait que vous n'ayez que des avocats face à vous ?
Je dirais non. Malgré tout, non, parce que là, on est en face des réalités, des causes qui ont causé, enfin des causes qui sont à l'origine de cet accident, et c'est très important pour nous, les familles.
Ah ouais, mais cette quête de la vérité, elle n'aurait pas été facilitée si vous aviez les dirigeants de l'époque, de la Yémenia ?
Bien sûr, ça aurait été plus facile pour ne serait-ce que faire son deuil et pouvoir avancer, d'avoir les responsables devant nous. Oui.
Quelle a été l'attitude de la Yémenia depuis ce jour de 2009 où vous avez perdu
Ça a toujours été du mépris du début jusqu'à la fin, parce que même dans la partie civile de cette affaire, lors des indemnisations des familles, on sait qu'au jusqu'à aujourd'hui, un tiers des familles n'ont pas encore été indemnisées complètement, alors que c'est quelque chose qui se fait de manière très rapide. Normalement, quand il y a un accident, il y a les accords de Montréal qui prévoient un dédommagement direct des familles endeuillées. Ça n'a pas été...
Dédommagement de la part de la compagnie ?
Oui, des assureurs de la compagnie, pour les familles des victimes. Et avec nous, on a dû batailler devant des juridictions à Aix-en-Provence, notamment.
Il y a un témoignage qui est très attendu, c'est celui de Baya Bakary, l'unique survivante de cette catastrophe. C'est cette adolescente de 12 ans à l'époque qui avait été retrouvée vivante après s'être accrochée de longues heures à un débris flottant de l'appareil. Elle sera entendue le 23 mai. Comment va-t-elle ? Est-ce que vous la conseillez, la préserver de toute la pression qu'il y a autour de ce procès ?
Ben écoutez, c'est une jeune fille qui, malgré elle, a appris à s'endurcir avec ce qui s'est passé. Je pense qu'elle n'a pas vraiment besoin de conseils. Elle est très bien encadrée avec son papa d'ailleurs, et les avocats aussi de l'association qui l'encadre très très bien. Donc je pense qu'elle attend avec impatience, tout comme nous les familles, de pouvoir s'exprimer et dire ce qu'elle a vécu.
C'est un témoignage, pardonnez-moi, qui est déterminant sur ce qui s'est passé réellement, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a entendu.
Oui, bien sûr, parce que c'est assez rare de retrouver des rescapés lorsqu'il y a ce type d'accident. Donc oui, son témoignage est très très important pour la compréhension de ce qui s'est passé.
Ce procès, il est retransmis certains jours au tribunal de Marseille, où vivent de nombreuses familles de victimes. Je crois que c'est votre cas. Marseille et son importante communauté comorienne, elle a vraiment été touchée en plein cœur, cette communauté, par cette tragédie ?
Oui, complètement, parce que déjà, Comorienne, c'est un petit... quatre petites îles, mais voilà, à Marseille, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est là où elle est, la communauté est très, très concentrée. Donc du coup, oui, c'est quelque chose qui a endeuillé, même, je dirais, une ville entière.
Parce que la plupart aussi des victimes étaient bien souvent des personnes qui faisaient vivre à elles seules toute leur famille.
Exactement, c'est comme ça que ça se passe.
Tant en France qu'aux Comores.
Oui. C'est l'aspect typique de la communauté comorienne, la diaspora comorienne. Oui, elle maintient beaucoup de choses au niveau des Comores. Mais d'ailleurs, je tiendrai à souligner que jusqu'à aujourd'hui, ces retransmissions du procès, ça s'est très bien passé. Mais malheureusement, il se dit qu'à partir de la semaine prochaine, ça serait...
Plus épisodique.
Voilà, plus épisodique, et ça serait quand même un petit peu embêtant pour nos familles restées à Marseille.
Je le disais au début de cet entretien, vous avez perdu 3 membres de votre famille. Comment vous avez conservé l'énergie de vous battre depuis 13 ans? Parce que c'est de l'avis de tous ceux qui ont suivi ce dossier, c'est votre association qui a permis qu'il y ait un procès aujourd'hui.
Tout à fait.
D'où vient cette énergie, cette force?
Écoutez, c'est la première fois que ça arrive, ce type d'événement pour une communauté comme la nôtre. Ben, cette force, elle est venue de la part du président, déjà, Saïd Assoumani, qui a tout fait pour tisser les liens, de maintenir les liens entre les familles. Après, cette soif aussi de vérité, hein, ça a aussi beaucoup joué.
Parce qu'il a fallu sortir cette enquête à plusieurs reprises de l'ornière. Elle était complètement bloquée.
Très bloquée, endormie, oui, parce que les parties prenantes de cette histoire ont tout fait pour la ralentir, aussi bien au Yémen, même aux Comores, là où a eu lieu l'accident. Et bon, mais quand même, on a eu de la chance aussi d'être bien entouré aussi par des avocats qui ont fait le nécessaire pour que cette affaire ne soit pas étouffée.
Merci beaucoup, Ibrahim Moni, porte-parole de l'Association des familles de victimes de la Yémenia Airways, d'avoir été avec nous ce matin en studio. La Yémenia qui est jugée jusqu'au 2 juin prochain. On va continuer, bien évidemment, de suivre ce procès attentivement. Bonne journée à vous.
Merci.
On termine avec votre partition, Omblin. Il y a 50 ans, le 12 mai 1972, les Rolling Stones sortaient l'une des pièces maîtresses de leur œuvre, Exile on Main Street.
Un album, Julien, enregistré dans la chaleur du sud de la France. Il répond aux 3 lois incontournables du genre et de l'époque, sexe, drogue et rock'n'roll.
Ce 10e album des Stones figure en bonne place dans le panthéon du rock, tout comme le lieu où il a été enregistré, la Villa Nelcott à Villefranche-sur-Mer.
Oui, une demeure prestigieuse du 19e siècle surplombant la Méditerranée. Nous sommes au printemps 1971, après la tournée de l'album Sticky Fingers. Pour des raisons fiscales, les Anglais s'exilent en France. Le guitariste Keith Richards jette son dévolu sur la Côte d'Azur et s'y installe avec femme et enfants. Des vacances en famille et des amis qui passent, Eric Clapton, l'actrice Faye Dunaway, John Lennon et Yoko Ono.
Et les autres membres des Rolling Stones sont également dans les parages.
Oui, tous se retrouvent dans la villa où on installe un studio d'enregistrement mobile.
Le programme est simple, la musique, la nuit, dans la cave jusqu'à l'aube, et le jour, des virées en mer et des balades en voiture.
Oui, voilà, au milieu des pins et des palmiers, rien n'est prémédité ou écrit d'avance, ni l'enregistrement de l'album, ni le mariage de Mick Jagger et de Bianca, très médiatisé à Saint-Tropez. L'atmosphère brûlante des lieux stimule la créativité du groupe, malgré des séances d'enregistrement interrompues par des coupures de courant à cause d'une installation électrique improvisée.
Les murs de la Villa Nelcott vibrent au son d'un blues qui donnera naissance à des classiques.
Ça, c'est la partie éclairée de la légende. La face sombre, c'est l'alcool et la drogue en grande quantité. French Riviera rime à cette époque avec French Connection. La villa est placée sous surveillance policière. Keith Richards dira plus tard sur un temps caustique : je n'ai pas de problème avec la drogue, j'ai un problème avec la police.
Sauf que cette ambiance, parfois toxique, en décourage certains.
Le bassiste Bill Wyman finit par décrocher et ne joue que sur 8 morceaux. Quant au batteur Charlie Watts, il ne se déplace à la villa que quand c'est nécessaire. Reste de cette résidence un album culte long de 67 minutes et 17 secondes.
We'll be right back.
The Rolling Stones avec Tumbling Dice, extrait de l'album Exile on Main Street, sorti il y a exactement 50 ans. Et sachez que demain, les Anglais publieront le Live at the El Mocambo, enregistré en 1977, durant les deux concerts surprises que le groupe a donné à Toronto, au Canada. Jusqu'à présent, seules les versions pirates circulaient sur Internet.
Ça fait du bien, les Stones, de bon matin. Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous, la matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27 et on vous souhaite de passer une excellente matinée à l'écoute.
Oui, et on vous donne rendez-vous demain à partir de 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.